Voix Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est jeudi 4 mai 2017 au sommaire. Deux activistes tchadiens condamnés à 6 mois de prison avec sursis.
C'est curieux que le tribunal retient à titre de délit la tentative d'attroupement pour les condamner donc à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Au Burkina Faso, nouveau report du procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Les Algériens se sont rendus aux urnes ce jeudi pour élire leurs députés dans un scrutin boudé par les jeunes. Et ici aux États-Unis, la Chambre des représentants vient de voter pour remplacer Obamacare, le programme de couverture santé de l'ancien président. Des détails dans ce journal et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Tchad, les activistes Nadjo Kena et Bertrand Solo ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Après leur interpellation le mois dernier, ils avaient été inculpés de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Timothée de Langmaï a joint à N'Djamena l'un de leurs avocats, Maître Olivier Alain Guéribaï.
La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance stationne sur la poursuite initiée par le ministère public contre les activistes a donc rendu sa décision en ces termes qu'il reconnaît les deux activistes coupables de faits de tentative d'attroupement et en répression, il les condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Alors, quelle est votre réaction à cette sentence?
Par rapport aux faits et l'infraction retenue contre eux, je ne vois pas un rapport parce que selon les activistes, ils avaient simplement demandé aux membres de porter la tenue rouge et chacun doit vaquer à ses occupations. Ils n'ont jamais appelé à un attroupement quelconque ou à une manifestation. C'est curieux que le tribunal retient, à titre de délit, la tentative d'attroupement pour les condamner donc à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Tout à l'heure, on est en train de se concerter, mais c'est sûr, on relèvera appel demain pour voir la situation au clair.
C'était Maître Olivier Ala Guéribaï, avocat à N'Djamena. Au Burkina Faso, les ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré étaient de retour ce matin dans le box des accusés. Après un premier renvoi le 27 avril dernier, le dossier était appelé aujourd'hui par la Haute Cour de justice. Les avocats de la défense ont obtenu un nouveau report. À Ouagadougou, les explications de notre correspondant Issa Napon.
Deux faits majeurs ont caractérisé cette deuxième journée. Les avocats, notamment ceux de Baba Ama et Baba Djemé, ont été à l'origine du report du procès. Commis d'office, Maître Odilon Gouba et Drissa Badini ont indiqué avoir reçu seulement la veille les éléments de leur dossier, les deux ministres étant jusque-là sans avocat. L'autre fait est le coup de colère de l'avocat de Blaise Compaoré. La Haute Cour de justice, après constat de la non-comparution de l'ancien président, a refusé la parole à Maître Olivier Sûr au motif que l'avocat ne remplissait pas les conditions pour représenter Blaise Compaoré dans un procès au pénal en l'absence de ce dernier. L'avocat s'en est plaint d'un ton amer après avoir quitté sa toge. Le jugement est pour ainsi dire reporté cette fois au lundi matin dans 4 jours où l'on espère enfin entrer dans le vif du sujet. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré est poursuivi dans le cadre de la répression sanglante des manifestants de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la fameuse réquisition signée de l'ancien chef de gouvernement Luc Adolphe Thiaw requérant l'armée pour maintenir l'ordre par tous les moyens, y compris par l'usage des armes. Issa Napo Ouagadougou, VOA Afrique.
L'ONU a confirmé ce jeudi la nationalité de la victime de l'attaque au mortier contre un camp de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, à Tombouctou. Il s'agit d'un casque bleu libérien et selon les rapports préliminaires, 6 obus ayant atterri dans le camp de la MINUSMA ne précisent toutefois pas la nationalité des 9 blessés, mais certaines sources font état de Libériens et de Suédois. 40 tonnes de faux médicaments ont été saisies dans un quartier d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé la ministre ivoirienne de la Santé, Raymond Kofi Goudou, qualifie l'opération menée hier de victoire et promet donc une action pérenne contre ce cartel. Baptisée Opération Éléphant, la saisie avait été menée par près de 700 policiers, gendarmes et militaires dans le quartier Roxy du grand marché d'Adjamé. La justice sud-africaine a ordonné au président Jacob Zuma de publier tous les documents qui ont justifié le récent et très controversé remaniement du gouvernement au cours duquel le ministre des Finances Pravin Gordhan a été limogé. Saisi par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, un juge du tribunal de Pretoria a exigé du chef de l'État qu'il remette aux plaignants tous les documents et enregistrements électroniques liés au remaniement. Le limogeage fin mars de Gordhan a poussé dans les rues des dizaines de milliers de manifestants qui ont exigé la démission de M. Zuma, accusé de piller les deniers publics. Le président Robert Mugabe a affirmé ce jeudi que le Zimbabwe était le pays le plus développé d'Afrique après l'Afrique du Sud. Âgé de 93 ans, le président Mugabe a fait une apparition au Forum économique mondial à Durban, en Afrique du Sud. Près de 90% de la population active est officiellement au chômage et 80% du budget de l'État sert à payer ses fonctionnaires. Le Zimbabwe traverse une crise économique aiguë depuis le début des années 2000. Le chef de l'opposition mozambicaine a annoncé la prolongation illimitée de la trêve observée depuis décembre par la faction armée de son parti, la RENAMO, dans la guérilla qui l'oppose aux troupes gouvernementales. Alfonso de la Cama précise toutefois que cela ne signifie pas la fin de la guerre, mais le début de la fin de la guerre. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a écourté ce jeudi un déplacement en Éthiopie après la mort de son ministre des Travaux publics qui a été tué par erreur par un garde de sécurité, selon en tout cas la version officielle. Il a ordonné une enquête sur cette affaire. Il s'est dit profondément attristé par la mort du ministre. Il était jeune, appliqué et patriote, a-t-il ajouté. Le tireur a été arrêté. Et puis, les Algériens ont voté ce jeudi pour renouveler leurs députés lors d'un scrutin dont le principal enjeu est la mobilisation des électeurs dans un pays confronté à des difficultés économiques et à l'inertie politique. Les détails avec Tatiana Mosso.
La participation est le principal enjeu de ces élections. L'abstention risque d'être importante. Les résultats doivent être annoncés vendredi. Ce scrutin se tient en plein marasme économique et social. L'Algérie, riche en hydrocarbures, traverse une crise financière en raison de la chute de ses revenus du pétrole. Les Algériens, plus préoccupés par la santé du chef de l'État, sont convaincus que ces élections ne peuvent pas conduire à un changement et que l'ordre politique établi ne sera pas bouleversé. L'Assemblée nationale est perçue comme une chambre d'enregistrement dominée depuis des décennies par le FLN au pouvoir. Elle dispose de pouvoirs limités, le président étant à l'origine de l'essentiel des projets de loi. La santé du président Abdelaziz Bouteflika, 80 ans, fait en outre l'objet de toutes les spéculations. Dans une rare apparition publique, Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, a voté ce jeudi assis sur un fauteuil roulant à Alger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais dans les titres, ici aux États-Unis, la Chambre des représentants à majorité républicaine vient de voter sur un texte soutenu par le président Donald Trump pour abroger et remplacer Obamacare, la réforme emblématique de la couverture maladie de Barack Obama. Les explications avec vous, John Lindham, en direct dans ce studio.
Les républicains devaient rassembler 216 voix au minimum. Le projet de loi a finalement obtenu 217. Leur parti dénonçait depuis des années la lourdeur et le coût de l'Obamacare, ou plutôt l'Affordable Care Act, voté en 2010 afin de réduire le nombre d'Américains sans aucune couverture maladie. Ils craignaient une socialisation de la médecine aux États-Unis. Durant la campagne présidentielle, Donald Trump promettait de l'abroger, mais le 24 mars dernier, une première tentative avait échoué. Les républicains n'avaient pas suffisamment de voix pour faire passer leur projet. Après des semaines d'ajustement, les dirigeants républicains ont fini par avoir suffisamment de votes à la Chambre des représentants pour faire adopter leur réforme intitulée American Health Care Act. Elle consiste à désengager l'État fédéral et de faire baisser le coût du système de santé en réduisant les obligations faites à la fois aux assureurs et aux patients. De nombreux démocrates se sont dit inquiets pour l'Association médicale américaine. Des millions d'Américains perdront leur assurance médicale. Le texte va être examiné dans les prochaines semaines au Sénat, où il sera encore amendé en profondeur. C'est donc une autre bataille qui commence.
Merci beaucoup, John Lindon. Et puis le président américain Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait à la fin du mois en Arabie Saoudite, en Israël et au Vatican pour son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le président Trump a fait cette annonce ce matin en recevant les leaders religieux dans les jardins de la Maison-Blanche. Il se rendra également au sommet de l'OTAN à Bruxelles et du G7 en Sicile à la fin de ce mois. En France, la campagne présidentielle française se poursuit à 3 jours du second tour et au lendemain d'un débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Toujours en tête des sondages, le jeune centriste pro-européen continue de recevoir des soutiens, dont celui de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique tout de suite dans le journal avec Timothée de Nangmaï.
Selon un rapport de l'université américaine Johns Hopkins, la banque chinoise d'import-export, la China Exim Bank, a prêté 63 milliards de dollars aux pays africains entre 2000 et 2015. Les principaux pays bénéficiaires, l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Ces prêts sont allés en priorité au secteur du transport, de l'énergie, des télécommunications, de l'eau et de l'assainissement. Les États-Unis mobilisent 156 milliards de francs CFA pour soutenir la santé publique au Cameroun. L'ambassadeur américain Michael Steven Hosa a indiqué que cette enveloppe va permettre de répondre de manière efficace à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies comme la fièvre Ebola. Enfin, le cabinet d'audit Ernst & Young vient de désigner le Maroc comme l'économie la plus attractive du continent africain. L'édition 2017 mesure les investissements dans 46 économies africaines sur la base de critères évaluant les progrès dans la gouvernance, la diversification, les infrastructures, les opportunités d'affaires, le développement humain et la résilience. Le Maroc prend la première place de la plus grande économie africaine à l'Afrique du Sud, qui est deuxième ex aequo avec le Kenya.
Et on passe tout de suite au sport avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdoul, bonsoir à tous.
On démarre par le football. Demi-finale de la Ligue des Champions, Monaco battu hier soir à domicile par la Juventus.
Oui, 2-0 au stade Louis II de Monaco, un doublé de Gonzalo Higuain. L'Argentin a ouvert la marque à la 29e minute avant de doubler la mise à la 59e. L'AS Monaco, malgré un Kylian Mbappé entreprenant, a bien tenté de percer le rideau défensif turinois, mais sans succès, notamment en deuxième période.
En Ligue Europa, l'Ajax a infligé une correction à un autre club français.
Oui, l'Olympique Lyonnais avec ce score sans appel de 4-1 pour le club de la capitale néerlandaise qui prend là une option sérieuse avant le match retour en France. Le Burkinabé Bertrand Traoré, auteur d'un doublé, a ouvert le score dès la 25e minute. Lyon n'a jamais battu l'Ajax en Coupe d'Europe. Pour nos confrères de l'équipe, il faudra un immense miracle au retour à Lyon pour renverser la situation.
Et ici sur le continent africain, les étalons locaux tenus en échec par le Bénin.
Oui, c'était à domicile et à Ouagadougou, au stade du 4 août, où les étalons locaux ont concédé le match nul, un but partout. C'est le Burkinabé qui a ouvert, le score hein, en première période par Lassina Traoré. Les écuries ont arraché l'égalisation par l'entremise de Marcelin Koukpo en seconde période. Ce match Burkina-Bénin entrait dans le cadre des préparatifs du deuxième tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2018.
Football toujours, le Gabon affrontera la Zambie en match amical.
Oui, ce sera le 3 juin à Libreville au Gabon selon les organisateurs pour préparer le début de la course à la Coupe d'Afrique 2019. Pour la première journée de qualification pour Cameroun 2019, le Gabon sera au Mali le 10 juin et la Zambie reçoit le Mozambique.
Et on passe rapidement au NBA, à la NBA plutôt.
Oui, le championnat de basketball nord-américain dans la conférence Est hier soir, Cleveland a encore battu Toronto 125-103 et mène la série 2-0. Conférence Est, San Antonio a égalisé avec Houston, une victoire partout en battant les Rockets 121-96.
Merci beaucoup Bagassi.
Merci Abdul. Bon week-end.
Bon week-end.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le nord du Mali est de nouveau le théâtre d'attaques terroristes, et ce malgré la présence de la force onusienne et des soldats français qui y mènent des opérations depuis janvier 2013. Selon l'ONU, le nombre d'attentats revendiqués par des groupes djihadistes a pratiquement triplé en une année, passant de 28 en 2015 à 85 en 2016. Pour analyse sur la multiplication de ces attaques, Eric Manirakiza a joint à Nouakchott le rédacteur en chef de Al Akhbar, Mohamed Diop.
Au nord du Mali, c'est la course contre la montre. Il y a une guerre des coalitions. Il y a les pays du G5 qui veulent se regrouper et faire une armée commune pour s'impliquer contre le terrorisme au Sahel. Il y a également le gouvernement malien qui, de son côté, veut mobiliser également les ex-rebelles pour reprendre le nord du territoire. Il y a les islamistes qui prennent les devants, aussi multiplient les attaques et eux, récemment, ils ont créé également leur coalition. Un autre point, c'est que la France de Hollande, qui a fait une guerre depuis 2013 et qui n'a pas vraiment fait des résultats avant le départ de Hollande, ils veulent prouver qu'il y a quelque chose qui a été fait sur le terrain. Finalement, c'est toutes ces forces donc, qui s'affrontent.
Quelle est la force qu'on peut donner à cette nouvelle coalition, cette alliance djihadiste récemment créée?
On peut lui attribuer deux forces. Déjà, il y a une force locale et également une force islamiste, parce que ce sont des groupes islamistes armés. Et parmi aussi les groupes les plus radicaux comme El Mourabitoun qui a revendiqué de façon plusieurs attentats et Al-Qaïda déjà, et plus Ansar Dine qui est un mouvement indépendantiste mais également djihadiste. Donc indépendantiste, c'est un mouvement local qui regroupe des combattants Touareg. On a vu les récentes attaques contre des hôtels et tout cela, les djihadistes ont voulu à ce que les auteurs soient des nationaux. C'est une coalition des djihadistes et des ex-indépendantistes de toute façon qui sont des radicaux.
L'accord d'Alger a tenté de stabiliser notamment le nord du Mali. Est-ce qu'on peut penser que les signataires de cet accord sont capables de se mettre ensemble pour faire face à cette nouvelle coalition?
C'est déjà une bonne question parce que la coalition des djihadistes surtout se sont engagés contre cet accord d'Alger, mais l'application de l'accord sur le terrain est difficile et que les islamistes veulent faire peur à tous ceux qui tenteraient de s'impliquer en faveur de l'application de cet accord. En tout cas, aujourd'hui, c'est un rapport de force. Il faudra que vraiment les signataires de l'accord soient vigilants et puis mettent tous les moyens nécessaires, que ça soit stratégique, moyens militaires et tout. Et développement, surtout le développement, c'est très important pour vraiment s'ils veulent vaincre les islamistes. Mais pour le moment, la guerre est loin d'être terminée.
C'était le rédacteur en chef d'Al Akhbar, Mohamed Diop, à Nouakchott.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Donangmaï et ses invités.
Les violences dans le Kasaï ont déjà fait 1 million de déplacés internes en République démocratique du Congo selon les Nations Unies. Dans le même temps, le HCR affirme avoir comptabilisé en Angola au moins 16 000 réfugiés congolais qui ont fui cette région du centre du Congo. Les réfugiés arrivent en Angola parfois avec de sérieuses blessures et disent avoir entre autres été victimes de violences sexuelles. Eddie Sango a joint dans la ville angolaise de Dundo, frontalière avec la RDC, le chef de l'équipe d'urgence du HCR, Assis Das.
Beaucoup entre eux traversent par les brousses en marchant pendant 3 à 6 jours pour arriver en Angola. Ils sont épuisés. Souvent, ils n'avaient rien à manger pendant le trajet. Avec ce qu'ils disent, c'est de la peur, l'intimidation et la situation difficile qu'ils ont observée chez eux et pendant le voyage. Ce qu'ils racontent quand ils arrivent à l'intérieur d'Angola. Ils aussi essayent de trouver cette cette personne qui sont venues avec des blessures et qui vit avec d'autres formes de violence. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment une chiffre exact pour pouvoir donner la taille de violence qui sont passées là-bas.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura dans la suite beaucoup plus de réfugiés qui viennent du Kasaï?
En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À peu près 11 000 personnes sont venues jusqu'à 18-19 avril. Ensuite, il y avait une pause. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux arrivés. Et finalement, à partir d'il y a 3 jours, on reçoit aussi encore de nouveaux arrivés. Comme ça, les chiffres a augmenté de 11 500 à 16 000 quelque chose jusqu'à hier. Comme la situation dans la Kasaï n'est pas vraiment stabilisée, on prépare pour accueillir plus de gens.
Les HR a demandé aux autorités angolaises de déplacer les réfugiés qui sont à Dundo, une ville frontalière avec la RDC, à un autre endroit un peu plus éloigné. Quelle en est la raison?
Selon les standards internationaux, en général, on recommande de ne pas créer le camp de réfugiés moins de 50 km de la frontière pour éviter les attaques interfrontalières et autres genres d'insécurité. Et à cause de ça, on a pour ces deux réseaux principaux, nous avons discuté avec l'autorité angolaise pour trouver un meilleur endroit pour déplacer cette population, pour pouvoir offrir une meilleure condition d'habitation, d'accès aux services, etc.
C'était Aziz Das du HR, joint par Eddy Issongo.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Près de 23 millions d'Algériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives. La campagne pour renouveler l'Assemblée nationale a été morose. La mobilisation des électeurs est difficile, tant ce Parlement ne dispose que de pouvoirs très limités. Le président concentre les pouvoirs et est à l'origine de l'essentiel des projets de loi. Pour comprendre le désintérêt des Algériens face à cette élection, Claire Morin-Jubourg a joint le spécialiste de l'Algérie et intervenant pour l'IRIS, Saïd Khairi.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Les Algériens s'intéressent plus au débat d'élection présidentielle en France en ce moment qu'aux législatives en Algérie. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui posez la question, son candidat de sa circonscription, il est au-dessus de chez lui, il ne le connaît pas. Par contre, il connaît Florian Philippot.
Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est parce que l'Assemblée nationale a peu de pouvoir réel?
Si vous voulez, l'Assemblée nationale, c'est un parlement croupion. C'est une chambre d'enregistrement qui n'a jamais joué son rôle de parlement démocratique. Voilà. Les députés sont des gens qui sont à la botte du pouvoir, c'est rien à dire. Il y a des députés de l'opposition qui font un travail remarquable, mais si vous voulez, ils ne pèsent pas lourd par rapport à l'Assemblée qui est pratiquement monocolore. Il y a effectivement une volonté de démocratiser le système, de renforcer le réflexe civique, de pousser les jeunes à voter, mais ça n'intéresse personne parce que l'image même du député, chez les jeunes surtout, c'est la planque, comme on dit là-bas, c'est-à-dire que c'est un salaire, hyper salaire garanti à vie, et plein d'avantages matériels, voitures, logements, etc. Donc si vous voulez, les gens courent après le poste de député, plus pour des raisons strictement matérielles que pour des raisons de idéologie politique ou de combat politique. Voilà. Je ne généralise pas, bien sûr, c'est sûr qu'il y a, quelques candidats qui veulent vraiment changer des choses, mais ils sont une minorité.
Comment vous expliquez que le gouvernement se soit finalement à ce point impliqué? Le président Bouteflika l'a appelé les électeurs à voter avec la fameuse campagne Sama Sawek, fait entendre ta voix. Le Premier ministre a multiplié les appels. Est-ce que le gouvernement a peur d'une certaine façon d'une montée des islamistes?
Il a toujours peur de la montée, parce que si vous voulez, les seules forces qui soient organisées, ce sont les islamistes. Parce qu'ils ne sont pas aux premières loges, ils ne sont pas au pouvoir. Donc si vous voulez, on est pur et dur, on fait du travail, on fait du social, etc. C'est comme ça que l'islamiste s'introduit dans ces sociétés. Si vous voulez, un petit peu comme l'ont fait les frères musulmans pendant des années. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont vraiment actifs pour mobiliser les gens et qui arrivent à mobiliser les gens sont les islamistes.
Ou alors peut-être, dans certaines régions, ce qu'on appelle les régionalistes, comme en Kabylie, etc. Dans l'ensemble, le pays est complètement désintéressé par cette histoire de l'élection parce qu'ils savent que ça ne débouche sur rien.
C'était ça, Drairier, joint par Claire Morin-Jubourg.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, finaliste de la présidentielle française, a été largement suivi et commenté par les Africains. Si les avis sont partagés sur les performances des deux candidats, il reste que beaucoup d'Africains habitant en France suivent de très près la campagne. John Lyndon a joint Athanase Karayenga, il est analyste politique basé en France.
Sur le plan de la démarche du débat démocratique, je crois que l'Afrique pourrait en prendre de la graine parce que le processus électoral dans un pays démocratique, comme cela est visible aujourd'hui en France, mais aussi hier aux États-Unis, en Suède, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, dans ces pays démocratiques ouverts, on arrive à proposer au peuple un choix extrêmement construit, un choix extrêmement identifiable par rapport aux intérêts de la population, mais quand même des choix respectueux. L'Afrique a beaucoup, beaucoup de mal à organiser des débats respectueux entre adversaires. L'Afrique a beaucoup de mal à respecter le processus électoral transparent, clair et puis surtout honnête.
On n'a pas beaucoup entendu parler de l'Afrique, même pendant la campagne. Pourquoi ?
Clairement, depuis le début de la campagne électorale, le seul des deux finalistes qui a une vision, une proposition sur l'Afrique, sur le développement de l'Afrique, l'accompagnement de l'Afrique, l'inclusion de l'Afrique dans l'économie de l'Europe, c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen n'a rien à dire, elle n'a rien dit, elle n'a aucune idée sur ce que l'Afrique devrait devenir dans une relation dynamique, positive, décomplexée avec l'Europe. De toute façon, Marine Le Pen, son choix, c'est de s'enfermer, de boucler les frontières, de bouter tous les étrangers dehors. Donc je ne crois pas qu'elle puisse être un choix désirable pour les Africains.
Est-ce que vous pensez que la jeunesse de Macron peut inspirer en Afrique?
La jeunesse peut inspirer, mais ce qui est beaucoup plus inspirant, c'est une jeunesse positive, ouverte. Donc même s'il ne gagnait pas les élections le dimanche prochain, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Donc il est jeune, c'est vrai, mais il a une vision, il a une générosité, il a une intelligence, il a une capacité de projection vers l'avenir qui est absolument magnifique et qui est un modèle pour l'Afrique, mais aussi pour les autres pays du monde.
C'était Athanase Karayenga, analyste politique basé en France.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, à la console Rob McLean, présentation Abdourahman Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.